Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'on n'a plus besoin d'homélie pour aujourd'hui parce que l'Évangile a parlé assez d'une réalité en fait. Parce que le dernier jugement qui a été présenté aujourd'hui, on croit, nous les chrétiens, on croit que c'est une réalité qui viendra dans un jour, on ne sait pas quand, mais on a la foi que cette dernière jugement viendra dans un jour. Pour ça, il nous faut beaucoup d'attention avec la modalité dans laquelle on mène notre vie en Christ, en l'Église en fait. Parce que parfois c'est très simple de dire que ça ne m'intéresse pas, il y a d'autres choses plus importantes pour ma vie. L'Église c'est en sorte où on vient d'un temps en temps pour faire quelque sorte, je ne sais pas, pour baptiser les enfants, nos enfants, pour nous marier, pour enterrer nos parents et nos grands-parents, et ça c'est tout pour plusieurs d'entre nous, l'Église. Et on oublie que l'Église nous donne la chance d'avoir une vie entière en Christ. Par chaque office qu'on fait ici, pas seulement ici, dans chaque église orthodoxe, par chaque office qu'on fait, on a la chance de goûter Dieu et de mener notre vie en Christ. Donc, parce qu'on a parlé qu'il y aura un jugement pour chacun d'entre nous, il faut lier cette jugement de notre état, on est tous d'êtres humains, mais d'êtres humains qui presque inévitablement, on est des pécheurs. Cette personne qui peut dire, qui peut pas dire qu'il pêche pas, qu'il a pas des choses comme ça, parce que c'est une réalité de jour à jour. C'est une réalité qu'on voit dans chacun d'entre nous. Bien sûr, c'est l'aspect un peu, je sais pas comment je peux dire, un peu effrayante de cette situation d'être pécheur et d'être devant le véritable tribunal du Christ qui aura lieu dans un moment donné. Mais, et ici c'est le sens de la dernière jugement, le sens de cet évangile et le sens de toute la vie en Église. Cette mais, on a la chance de dépasser cet état de pécheur et d'arriver dans un état que le Père de l'Église, par exemple Saint Grégoire Palamas, si d'entre vous connaissez un peu la théologie qui a été synthétisée par ce saint de l'Église orthodoxe, qui dit que l'homme est destiné pour devenir la déification. C'est une chose assez haute, si vous voulez, mais c'est ça le destin de l'homme. De surpasser l'état de pécheur, l'état de qu'on considère presque normal. Plusieurs d'entre nous, on ne sait pas très bien c'est quoi le péché, c'est une chose comme ça, bon, tout le monde fait comme moi, donc c'est pas très grave. C'est pas comme ça. Pour ça, l'Église nous met devant nous des périodes. Je vous ai parlé déjà des périodes, de différentes périodes pour accéder un peu plus à l'état vers la déification de l'homme. Un dumnezeire en roumain, on pourra dire. C'est quoi cette période? On pourra dire que c'est la période qui commencera la semaine prochaine, 2 mars. C'est le grand carême. Parfois, quand on entend de carême, on a tous un peu de... On ne mange pas de la viande, on ne mange pas du fromage, on ne boit pas du lait et toutes les choses comme ça. C'est comme ça, mais en plus, c'est un renoncement. On renonce à toutes les choses, comme je vous ai déjà dit, à toutes les choses qui nous empêchent un peu d'être libres devant Dieu. C'est un chemin qui part de nos péchés vers la vraie vie, la vie qu'on mène en Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne sent pas très bien c'est quoi le grand carême. Peut-être qu'on voit que le grand carême, c'est une chose comme ça que l'Église a instituée. Mais pourquoi il y a le grand carême? On pourra dire une question historique, si vous voulez. Vous savez que le grand carême est suivi par la fête de Pâques. On jeûne pour ça, pour le Pâques. Mais dans le temps du christianisme primaire, si vous voulez, la période des grands carêmes, c'était la période où les gens qui n'étaient pas encore baptisés, ils étaient préparés pour le baptême qui avait lieu dans la nuit de Pâques. C'était une grande fête où tous les gens qui ont devenu des chrétiens étaient baptisés dans la nuit de Pâques. Et toute cette période de 7 semaines, en fait, c'est 6 semaines et après la semaine sainte, d'avant le Pâques, cette semaine, ils jeûnaient pour se préparer pour ce baptême. Tous, ceux qui vous êtes orthodoxes, nous ne souvenons pas rien de notre baptême, parce que la grande majorité d'entre nous, on a été baptisés quand on était très petits. Mais pour ceux d'entre vous qui vous avez été baptisés, quand vous avez un peu de conscience dans un âge un peu adulte, le grand carême peut signifier une période où on se souvient toujours du baptême, de notre baptême, de le fait que le baptême met un commencement dans la voie qu'on a vers Dieu. Donc je dis qu'il n'y a pas d'homilie aujourd'hui parce que l'Évangile a parlé beaucoup, mais j'ai voulu vous dire quelques mots sur ça, sur la préparation qu'il faut avoir avant les Pâques. Parce que vous voyez, la Pâques, c'est la lumière. Quand vous venez à l'église dans la nuit de Pâques et vous recevez la lumière, ce n'est pas un simple geste comme ça qu'on est venu à l'église pour avoir la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la lumière qui nous donne la vraie lumière. Parce qu'en église, on trouve la vraie lumière. C'est qui? Parce qu'on ne peut pas demander c'est quoi. C'est qui la vraie lumière? C'est le Christ. C'est le Christ qui est toujours présent parmi nous par la Sainte Eucharistie qu'on prépare chaque dimanche et chaque fête. C'est qui la vraie lumière? C'est la lumière qu'il faut chercher chaque jour. Il faut dépasser les faux lumières qu'on voit toujours autour de nous. Et il faut chercher la vraie lumière. Et le grand carême, c'est comme une période pour découvrir mieux la vraie lumière. C'est comme une période un peu ténébreuse, si vous voulez, où on a beaucoup de luttes avec nous-mêmes, avec nos péchés, où c'est une période où on a beaucoup de renoncements. Même si on part de renoncer de choses qu'on aime, de manger, je ne sais pas, ou de renoncer à beaucoup de choses qu'on aime pour découvrir la vraie lumière. Et après, avec cette lumière, on pourra se réjouir de toutes les choses que Dieu nous a données dans ce monde. C'est ça le sens du carême, du grand carême, qui commencera après une semaine. Donc, il faut penser, pour faire un petit résumé, j'étais pas très... j'ai pas eu une ligne, j'ai pas suivi en ligne, mais c'est très difficile de parler de choses comme ça, parce que la grande et dernière jugement, c'est une réalité qu'il faut toujours nous pousser pour nous garder de péché. Et c'est très difficile, ça c'est une lutte continue. On ne peut pas parler beaucoup sur ça parce qu'il faut faire, c'est ça qui compte. Il faut faire toujours, il faut toujours se garder de péché. Il faut toujours penser que le péché, c'est quoi le péché ? C'est pas une chose qui... on ne parle pas de péché comme une chose juridique. Je ne sais pas, on a fait un péché, on est puni pour ça. Non, le péché c'est quoi ? C'est la chose qui nous écarte de Dieu. Comme vous aimeriez quelqu'un, et quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon en relation avec celui qui vous aimait, cette chose vous écarte de celui qui vous aimait. C'est ça le péché. C'est la chose qui nous écarte de Dieu. Et l'Évangile, c'est très clair. Il dit à la fin, celui qui... j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. C'est quoi ça? C'est l'amour de Dieu qui est concrétisé dans les choses très, très palpables, si vous voulez. L'amour pour Dieu passe par l'amour pour les autres, pour nos proches ou pas, pour tous ceux qu'il faut aider dans une façon ou une autre façon. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça. Quand on cherche la vraie lumière, on cherche d'aider les autres et d'aider nous-mêmes, de nous écarter du péché et d'aller sur le chemin de Dieu ensemble. Parce que vous avez entendu aujourd'hui aussi l'apôtre qui a été lu ici et qui disait... de ceux qui mangent de la viande, et d'autres qui peuvent être, je ne sais pas, un peu tremblés, un peu, parce qu'ils voient les autres qui mangent de la viande. C'est toujours de soigner l'autre, de soigner toujours l'autre, d'être attentif dans le point maximum avec les autres, d'être attentif, parce que la voie et le chemin en Christ ne peut pas passer, peut pas passer que par nous-mêmes, que par nous. Il faut être toujours ensemble. Pour ça, ici, à l'Église, on est beaucoup. Vous savez que, par exemple, le prêtre, il ne peut pas officier la liturgie tout seul. Il faut être même, au moins, une seule fidèle pour que le prêtre puisse officier la liturgie. Il n'y a pas de liturgie privée, parce que le prêtre, il peut... pas du tout être toute seule, jamais. Il faut officier la liturgie avec quelqu'un. Et vous vous souvenez des mots du Christ qui dit, s'il y a deux ou trois qui sont rassemblés au nom de moi, ça sera l'Église. C'est ça l'Église, d'être ensemble. Donc, il faut penser au dernier jugement, mais dans le même temps, il faut avoir l'espérance que Dieu nous attend. Comme c'était un père qui disait que Dieu nous attend comme la mère attendent ses enfants quand les enfants font beaucoup de bêtises, la mère, même si elle s'énerve, elle se fâche contre ses enfants, mais jamais, jamais une vraie mère ne voulait pas que ses enfants, je ne sais pas, soient donnés pour être condamnés définitivement. Non. Dieu, c'est comme une mère qui nous attend, chacun d'entre nous, qui nous attend, et qui ferme toujours à la porte de notre esprit, attendant que nous sommes dans la situation d'ouvrir. Donc c'est à nous de décider si on peut ouvrir à Dieu, c'est à nous de décider si notre vie peut être marquée par la pensée qu'on aura un dernier jugement dans un jour, on ne sait pas quand, mais on aura cette chose, parce que c'est nous qu'il faut choisir la vie en Dieu ou la vie dans notre situation. Si quelqu'un d'entre vous qui veut relire cet évangile, je peux vous donner ça se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 25 et le verset 31 jusqu'à 46. Lisez chez vous cet évangile, encore une fois, encore deux fois, et essayez de penser, toute la semaine qui suivra, essayez à penser à cet évangile un peu. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous amène, et pourquoi l'Église nous amène cet évangile dans ce moment-là, avant que le grand carême commencera, pas avant une semaine que le grand carême commencera. Pensez à ça, demandez-vous pourquoi on a eu la dimanche dernière, c'était la dimanche du fils prodigue qui a péché beaucoup, qui est parti de son père, mais qui est revenu. Faites en liaison avec ces deux évangiles et pensez à votre vie qui toujours pourra être en vie sauvée, parce que c'est ça qu'on veut tous, d'être sauvé. On demande toujours à la Divine Liturgie Kyrie eleison, Domine miluiește, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, miséricorde. Même dans un tropère qui on chante dans le matin d'aujourd'hui, on présente, je vous lirai le tropère. Lorsque je songe à ton redoutable jugement, Seigneur de toute bonté, ainsi qu'au jour de ta justice, je tremble d'effroi, car ma conscience m'accuse. Lorsque tu viendras sur ton trône pour siéger, pour instruire le procès du monde entier, personne ne pourra nier ses péchés, car la vérité triomphera, et nul n'aura l'audace de te contester. Alors crépitera le feu de la guerre, et les pécheurs grinceront des dents. Mais, et ici je reviens sur le « mais » que j'ai dit au commencement de mon homélie, « mais toi, Seigneur, avant la fin, aie pitié de moi et veuille m'épargner juge juste et équitable. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi. » C'est toujours, pour ça on dit toujours, « Seigneur, aie pitié de moi. » Et avec ça, je veux finir vous disant que je crois que vous savez tous c'est laquelle la prière la plus pratiquée par les moines de l'orthodoxie. C'est la prière qui dit comme ça, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur. » Et les moines dans les monastères, dans presque tous les monastères, ils disent toujours cette prière, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Pourquoi ? Pour obtenir la miséricorde de Dieu, pour obtenir la pitié, pour obtenir le pardon, mais c'est plus qu'un simple pardon, pour obtenir la qualité d'être des vrais fils de Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse de comprendre c'est quoi le grand carême qui suivra. Aujourd'hui, c'est le dernier jour qu'on peut manger de la viande. Bien sûr, ceux qui peuvent, mais il faut dire les choses très claires. Ceux qui peuvent, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Mais il faut savoir c'est quoi le carême. Et peut-être qu'il faut essayer un peu, petit à petit. C'est pas une chose très difficile. Il y a sept semaines où tous les chrétiens jeûnent. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez un peu essayer cette voie de carême, de voir un peu. C'est pas une abstinence alimentaire, pas du tout. Pas du tout. On renonce aux choses qu'on aime pour renoncer un peu à nous-mêmes. C'est ça, le carême. Et on commence par les choses qu'on aime quand on mange, parce que ça, c'est toujours les choses qu'on aime beaucoup, avec toutes les autres choses qu'il faut renoncer. Donc, il y a encore une semaine où on peut manger tous les produits du lait, sans viande. Et après, à partir de lundi 2 mars, on commence le grand carême. On verra, peut-être on pourra faire pendant une semaine la liturgie des dons pré-sanctifiés. On verra, c'est une liturgie qui se fait dans la soirée, pendant la semaine, où ceux qui peuvent jeûner toute la journée, rien manger. Et après, dans la soirée, ils peuvent communier avec le corps et avec le sang du Christ. Donc on verra, on annoncera sur le groupe email de la paroisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de pouvoir commencer le grand carême, et que Dieu nous donne à tous la joie de nous dire « Venez, les bénis de mon Père. » Que Dieu nous donne à tous d'entendre ces mots. Venez, venez, les bénis de mon Père. Amen.